chronique d'Occulte Racine sur Radio Ranciel avec Lynn. Chapitre 11. La maison qui n'aimait pas les enfants. Une goutte, et c'est un miracle. Ou un monstre. Plus d'une goutte, et c'est toujours un monstre. Extrait des recueils d'Occulte Racine. Quand il fallait quitter un foyer, Méline traînait des pieds comme jamais. Un pas après l'autre, très lentement. Le plus lentement possible. Au point d'exaspérer tout le monde, adulte comme enfant. Il râlait, lui faisait signe de se hâter en désignant leur montre et sans le vouloir, rendrait ainsi service à la fillette. Car les animateurs et les familles d'accueil gardaient un souvenir si gêné de chacun de ses départs qu'ils réfléchissaient ensuite par deux fois avant de la déplacer. Elle avait beau y aller lentement, cette fois-ci, c'était le déménagement de trop. Méline s'arrêta tout à coup. Quitter la serre, il n'en était pas question. Elle avait eu le temps de réfléchir sur le chemin des chambres, puis en lambinant dans les jardins. Elle ne voyait pas ce qui l'empêchait de rester. Comme elle le faisait tous les 10 mètres, la vieille marqua l'arrêt à côté d'un parterre de jonquilles, toute prête à repartir dès que la fillette l'aurait rejointe. Elle se déplaça avec un port et une démarche incroyable pour son âge. Ce n'était pas toujours parfait, mais c'était forcément plein de raffinement et de petites mimiques appuyées. « Avancez, vous dis-je » enjoignit la Pradine. « Je ne veux pas que tout le monde nous voie. Allez, qu'est-ce que vous attendez ?» Elle n'était pas tactile, mais elle gesticulait beaucoup. Ça papillonnait autour de la tête de Méline. Des grands gigotements parfumés avec plein de bagues et du vernis sur les ongles. Elle faisait des mouvements amples pour lui montrer le chemin. Mais la fillette avait décidé qu'elle ne bougerait plus d'un pouce. Elle resterait plantée au milieu du passage, ses vêtements pliés dans les bras et une assiette de crêpes sur le dessus. Un cadeau déposé là par Pepper pour la route. L'entrée du labyrinthe n'était plus qu'à 2 ou 3 enjambées. À croire que son parcours dans la serre devait chaque fois la ramener à cet endroit. Mais rien à faire, Méline ne bougeait pas. La Prasine essaya de la rassurer. Elle connaissait le dédale par cœur. Elle n'allait pas se perdre. Mais pourquoi fallait-il passer par là, pour sortir ? La vieille femme était à 2 doigts d'utiliser les grands moyens quand Méline aperçut le char borgne. Il quittait les buissons et s'élançait parmi les hauts murs du buis, s'enfonçant dans les méandres du labyrinthe au nez et à la barbe de la Prasine. Suivre le chat, suivre Croac. Méline se souvenait de la consigne. Il fallait qu'elle le rattrape. « Ah, nous voilà repartis. Par ici, jeune fille, j'ouvre la voie. » La vieille connaissait effectivement le labyrinthe comme sa poche. Sans hésitation, elle avançait d'un passage à l'autre avec sa gestuelle sophistiquée, laissant dans son sillage un parfum exubérant ainsi qu'une petite fille obligée d'accélérer le pas pour suivre la cadence. 2 fois à gauche, 1 fois à droite, tout droit, à nouveau sur la droite. Encore un carrefour, puis elle prit sur la gauche et continua un long moment dans la même direction. Méline ne voyait la sortie d'aucun côté. Mais elle sentait l'ombre menaçante du tronc central gagner dangereusement du terrain. Elle leva la tête, l'immense tour n'était plus qu'à quelques mètres, imposante, torsadée. Elle s'approchait du centre de la serre. Jamais la fillette n'en avait été aussi près. « Attention, on s'arrête ici !» fit la main ridée. Elles étaient arrivées devant un gigantesque aubépieur, sans doute le plus grand des lieux, ses milliers d'yeux rouges tournés vers les deux humaines. Il les inspecta de la tête aux pieds et toute épine dehors. La Prasine eut alors un mouvement qui échappa à la fillette. Méline cherchait le chat du regard, mais elle ne le voyait nulle part. Soudain, il y eut un bruissement et le buisson s'ouvrit en deux, découvrant un tunnel de branches à moitié plongé dans l'obscurité. Par ailleurs, bloquées dans un cul-de-sac, elles étaient obligées d'emprunter l'étroit passage pour continuer. De temps à autre, la vieille s'inclinait en se protégeant le visage de l'avant-bras. Mais rien ne semblait pouvoir l'arrêter, ses escarpins décidés martelant le sol à une allure toujours soutenue. « Il va y avoir quelques marches à monter », prévint la vieille femme sans se retourner. 3 devant, un mur bouchait le passage. Elles avaient atteint le tronc. Mais elles n'eurent pas à s'arrêter pour obtenir qu'il s'ouvre. À leur approche, 2 énormes torsades s'écartèrent pour former une porte d'entrée presque carrée. aussitôt les premières marches surgir de la pénombre, particulièrement peu élevées et suivant un tracé ondulant très étonnant. Bien qu'interminable, l'escalier se laissait monter aisément. Pendant de longues minutes, elles gravirent l'intérieur du tronc sans échanger un mot, progressant dans une étrange clarté et une fraîcheur pleine de gazouillis organiques qui rappelaient à chaque pas le caractère végétal et bien vivant de l'édifice. En fin de course, elles se retrouvèrent dans la vaste pièce au sommet de la tour, sous une voûte aux allures de carapace composée d'écailles transparentes et de jointures en tiges délicates. Le spectacle était incroyable. D'un côté, les jardins en contrebas, avec leurs pommes géantes, leurs toboggans aquatiques et leurs mantes religieuses en train de récolter. Le tout vu sous un angle totalement nouveau. Et d'un autre côté, le ciel morcelé à travers les panneaux irisés du dôme. La fillette était bouche bée. L'espace devant elle était découpé en 5 zones. 4 réparties comme les feuilles d'un trèfle autour de la 5e. Au centre, formé d'un kiosque rond, sorte de groseille verte hypertrophiée et percée d'ouvertures ovales. Dehors, le matin semblait glacial et venteux, alors que dedans, à l'abri, sous le dôme carapace, il faisait une température idéale. Mais tout de même, quelque chose clochait à propos du ciel. Soit il était nettement plus bas que d'habitude, soit la serre était construite au plus près des nuages. Toujours est-il que les masses grisâtres et cotonneuses lui apparaissaient terriblement proches et rapides. « Wouhou !» lança le vieil homme qui apparut tout d'un coup derrière l'arrière du kiosque, les bras en ailes d'avion et de grosses lunettes noires sur le nez. Si la fillette ne se trompait pas, il se prenait pour un oiseau d'1,90 m, décrivant des rondes dans le ciel. Il courait dans tous les sens, son long manteau vert s'écartant à chaque fois qu'il tourbillonnait, un sourire de bienheureux aux lèvres. Sur son crâne dégarni, quelques cheveux blancs lui traçaient une couronne fantaisiste. Alors qu'elle l'avait imaginé avec une barbe hirsute et des sourcils envahissants, il était rasé de près, bien proprement. Quand il vint tracer des cercles à proximité des visiteuses, Méline lui trouva une odeur insolite, pas franchement repoussante. Il y avait bien quelque chose de puant dans son parfum, mais de la plus belle puanteur qu'il soit. Une note suave, musquée et abricotée, avec des relents de fleurs d'oranger. Du reste, tout l'étage était joliment parfumé. La fillette ne pouvait pas mettre des mots sur les senteurs qui circulaient dans l'air, mais la plupart lui étaient familières et agréables. Tout sauta la prasine afin d'attirer l'attention de l'homme-oiseau. Les lunettes noires se levèrent au-dessus des petits yeux surpris, des yeux gris à la fois perçants et rieurs. « Agathe ! Qu'est-ce qui vous amène de si bon matin ?» Puis il aperçut la petite fille dans l'ombre de sa vieille amie. « Oh, des crêpes !» Méline n'eut pas le temps de réagir que l'assiette avait déjà disparu. « Nous avons un problème, disons technique, » annonça la prasine. « Ah !» se figura le vieil homme avec un air étonné. Il n'allait pas la croire, mais une des sages-fées, inutile de la nommer, avait eu la brillante idée d'adopter la petite fille ici présente pour la sortir du département hypnologie de l'hôpital de Nantes. Oui, oui, elle parlait bien d'adoption. « Plus de parents, » murmura-t-elle. « Plus de parents, » murmura-t-elle. « Enfance difficile, ballottée de familles d'accueil, en foyer. » Mais ce n'était pas une raison. Elle était en train d'expliquer que le nombre de places dans la serre était évidemment limité quand l'homme l'interrompit tout d'un coup. « C'est elle ?» se pencha-t-il en direction de Méline. La prasine n'était pas sûre de comprendre. « C'est vous, jeune fille? Vous qui m'avez donné tellement de fil à retordre? J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Une odeur aussi persistante. Pouah! Il m'en a fallu du travail pour réussir à l'éteindre. J'ai joui toute la journée, même parfois la nuit. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas lancé un défi pareil. Quelque chose de tellement léger et rapide, une petite mélodie fugace et très aiguë. Vous l'avez entendu? J'en ai encore mal aux doigts, mais j'y suis arrivée, n'est-ce pas ? » Il huma l'air pour vérifier. « Vous ne risquez plus rien à présent. » Puis il se redressa tout d'un coup. « Ah, on dira bien ce qu'on veut, ces crêpes sont toujours aussi délicieuses. » Sur ces bonnes paroles, il reposa l'assiette vide sur les vêtements de la fillette et s'éloigna tout sourire en écartant les bras, ses lunettes noires de retour sur les yeux. À la seconde où vous apparaissiez dans son champ de vision, la belette cuisinière se mettait à découper tout ce qui lui passait sous la patte à une vitesse folle. Mais dès que vous disparaissiez, elle s'arrêtait et se dressait sur ses pattes mécaniques à votre recherche. Penchée par-dessus son bar, un couteau à la main. Cette version animée K des Mumu était bien plus amusante que les deux sœurs siamoises. Même si les préparations par ici n'avaient rien d'appétissant et qu'il se dégageait un fumet peu engageant de cette cuisine, entre l'odeur du papier brûlé et celle du bois mouillé. Après un dernier passage éclair devant la belette hyperactive et hyper réactive, Méline continua son tour du propriétaire, tandis que les adultes s'entretenaient en catimini devant le kiosque. Chaque zone était délimitée par un muret d'environ 1,50 m de haut et dessinait, vu de dessus, un arc de cercle presque fermé. Sans plafond ni porte d'entrée, et tous les murets étaient creusés de niches alvéolées dans lesquelles il était possible de caser toutes sortes de choses éparses. La deuxième zone était occupée par une drôle d'installation. Il y avait un coin de table avec deux fauteuils sur la gauche, un jeu d'échiquier sur la table et des boîtes de gâteaux un peu partout sur le sol. Mais ce qui trônait au centre de la pièce était difficile à décrire car ne ressemblant à rien de connu. C'était séparé en deux parties, comme un bonhomme de neige à la peau verte dont la tête serait maintenue au-dessus du corps par une grosse racine jaillissant du sol. On pourrait aussi y voir deux amphores, une petite dont le fond serait collé à un tronc recourbé et l'autre, très large, beaucoup plus grosse, sans anse, serait installée en dessous. Deux amphores dont les cols se regardaient. L'amphore du bas, décoré par trois rangées de claviers, était rempli d'un liquide blanchâtre absolument inodore. Tout autour, sur les murs, dans les rangées d'alvéoles, des extraits de plantes séchées, des baies, des feuilles, des racines, tout ce que la serre comptait de spécimens uniques et parfumés. Dans la troisième zone, un vieux matelas drapé et un fauteuil défraîchi se disputaient tout l'espace. Rien d'autre. Pas de vêtements, pas de livres ou de magazines. Toutes les alvéoles étaient vides, le sol débarrassé. Enfin, la dernière partie ressemblait à l'atelier création. Le mercredi après-midi dans la maison des sœurs Agniel. Les tables, le long du muret, étaient couvertes de bric-à-brac, de détritus végétaux et d'instruments aux formes pas très encourageantes. Ça et là, il y avait aussi des morceaux d'animeka, des bouts de pâte ou des constructions en forme de bec. Et en tout point similaire avec celle de la seconde zone, une énorme amphore se tenait au milieu de la pièce. Sans anse et sans clavier, mais elle aussi remplie à ras-bord d'une eau sans parfum. Lui, il disait « ma chère Agathe », et elle n'arrêtait pas de l'appeler « Galael ». « Galael par ici, Galael par là ». « Votre idée n'est pas mauvaise, Galael, mais ce n'est pas envisageable. Vous comprenez, Galael, je ne peux pas faire ça, c'est au-dessus de mes forces. » Mais le vieux Galael venait d'être rejoint par son compagnon d'épaule, le crapaud volant, et depuis, la discussion s'était envenimée. Autant les grenouilles volantes inquiétaient car elles étaient synonymes de remontrances ou de mauvaises nouvelles, autant ce crapaud faisait peur à voir parce que c'était de loin l'animéka le moins réussi et le moins bien fini de tous. Ses yeux verts n'étaient pas à la même hauteur, ses deux ailes de peau n'avaient pas la même longueur et le pire, c'était sa bouche, toute de travioles et faite en coquille de moule morcelée. Autre différence notable, il ne produisait pas de bulles, il parlait. D'une voix affreuse, nasillarde et grinçante. Il s'adressait à la vieille femme en gigotant sur l'épaule de Galael avec un ton suffisant. C'est que le crapaud avait un avis très tranché sur le sujet. « Soyons d'accord sur les termes. Garantir et prodiguer les soins, ce n'est pas du tout la même chose. Et qui soigne ici? C'est nous. C'est donc nous qui décidons ce qui est le mieux pour les protéger. »« Quel argument ?» s'emporta la vieille Prasine. Ils se disputaient à propos d'un endroit. Un endroit où Méline pourrait aller, mais dans lequel la vieille femme ne voulait pas la conduire, sous prétexte que la petite n'avait rien à y faire et qu'elle n'y serait pas heureuse. Pendant un bon moment, le vieil homme ne participa pas à la conversation. Il regarda Méline. Il la regarda attentivement. Il lui fit même un petit sourire avant de demander le silence. Il pensait que c'était une bonne idée. Il était d'accord avec Rani, son crapaud d'épaule. Celui-ci eut un ballonnement ravi, roula des ailes et grincha. Agathe voulut intervenir une dernière fois, mais le vieil homme l'arrêta net. Il avait compris son point de vue, seulement il avait décidé que la fillette irait quand même. Ce qui valut un faciès fripé de la prasine de prendre une teinte encore plus livide. La jeune miraculée reçut l'ordre d'aller dans la partie chambre, de laisser sa combinaison sur la chaise et de remettre ses vêtements. Ce qu'elle fit, mais en prenant tout son temps. Elle avait perdu l'habitude de se sentir à l'étroit dans ses t-shirts et pantalons. Elle se demanda, même si elle n'avait pas grandi quelque peu depuis le début de son séjour dans la serre. De retour près du kiosque, la boule au ventre qui n'avait pas quitté la fillette depuis son réveil se contracta un peu plus fort au fond de son estomac. De toute évidence, le départ était imminent. La prasine s'y préparait. A priori, il fallait qu'elle se tienne tout près de la petite fille, presque collée, ce qui les gênait autant l'une que l'autre. À présent, ne bougez plus. Mais Lynn ne comptait aller nulle part. Elle se demandait seulement pourquoi la vieille femme s'était mise derrière elle, apposant presque ses doigts crochus sur ses épaules. C'est alors qu'elle apparut, la bulle géante qui les engloba en un instant et vira au blanc opaque. Bientôt, la pièce autour d'elle disparut derrière un écran de brouillard. Elles se retrouvèrent prisonnières de cette sphère laiteuse, comme enfermées à l'intérieur d'une boule de verre. Ne comprenant pas bien ce qui leur arrivait, la fillette cligna des yeux et quand elle les rouvrit, la bulle se dissipait déjà. Elles étaient dans une cage d'escalier, devant un ascenseur dont la cabine dorée était arrêtée un étage plus bas. L'espace était haut de plafond, avec moulures, appliques, clinquantes et murs habillés de grands cadres. Méline ne savait pas où elles avaient atterri, mais ça n'avait plus rien de végétal, ni de magnifiquement irréel. Plus de lueurs vertes, plus d'animeca, ni de grenouilles volantes. Pour couronner le tout, il faisait pigrement froid par ici. Elles étaient au dernier étage d'un immeuble chic, devant une double porte impressionnante. La seule porte du palier. Un bouton de sonnette de nacre blanc, engoncé dans un minuscule bloc de marbre, portait une inscription en lettres argentées. À Prasine. La grande dame en talons hauts sortit un jeu de clés de sa poche et avança sur l'imposant paillasson. Un tour dans la serrure, elle jeta une œillade noire à la fillette. Un deuxième tour, elle lâcha un soupir qui venait de loin. Comme elle enclenchait le troisième tour, la porte céda. La première phrase que prononça Agathe Prasine, en entrant chez elle, se résuma à ces mots. Par pitié, ne touchez à rien. Accueillie par son reflet au visage renfrogné, la fillette se détourna du miroir pour découvrir sur sa gauche le long vestibule blanc qui s'étendait jusqu'aux pièces à vivre. Au sol, le plancher craquait sous ses pas. De part et d'autre du couloir, des consoles richement sculptées donnaient une vague idée du niveau de vie. Sentiment rapidement confirmé par la suite de la visite. Agathe, Geneviève, Dominique, Prasine avaient toujours rêvé de vivre dans les années 1900. C'était une période dont elle adorait la mode vestimentaire, le design et l'architecture. Mais elle n'avait jamais osé imaginer qu'elle deviendrait un jour l'heureuse propriétaire d'un lieu créé et agencé par l'un des maîtres de l'art nouveau, le célèbre et génial Victor Horty. Il avait tout pensé dans cet appartement. Des matériaux en passant par l'organisation des pièces et jusqu'au dessin des meubles pour que le tout soit cohérent. L'effet était d'ailleurs parfaitement réussi. L'immeuble construit à la croisée de deux boulevards s'étendait de l'est vers le nord-est en formant un V. L'aile orientale de l'appartement se composait d'un jardin d'hiver, d'une cuisine intermédiaire et d'un immense salon tout en longueur qui s'achevait par une pièce ronde, coiffée d'une coupole à l'angle du bâtiment. L'aile nord, pour majeure partie privative, intégrait les cabinets, les deux salles d'eau, les quartiers de la prasine avec chambre et dressing, ainsi qu'un escalier sous pente permettant l'accès aux trois chambres de bonne dans les combles. En premier lieu, les deux femmes gagnèrent le salon. L'incroyable espace que voici. Le long du mur à la droite du visiteur, vitrines et piédestaux exposaient leurs antiquités rares et leurs bibelots précieux. Côté gauche, courant devant les doubles porte-fenêtres, une longue table et ses huit hauts sièges capitonnés. Au-dessus de la table, un lustre royal qui semblait se répandre au plafond à la manière d'un système racinaire. Tout au fond de la pièce, nichée sous la coupole, une bibliothèque surélevée que l'on pouvait atteindre en empruntant un escalier spiralé aux lignes folles. À côté de cet escalier et faisant face à une cheminée monumentale aux formes arrondies, deux fauteuils de cuir confortables. Entre la cheminée et les vitrines, une fresque de 2 mètres sur 3 représentant un groupe de femmes dans un paysage bucolique. Le tout dans un style Art Nouveau du meilleur goût, avec des points mielés, des dorures fleuries et des motifs végétaux comme autant de volutes élancées et de courbes légères. Par les nombreuses fenêtres de la pièce et tombant sur le bout du balcon à l'extérieur, une neige lente dans la grisaille du matin. Au loin, des arbres blancs, beaucoup d'arbres, et des rues boueuses en dessous. Les voitures circulaient au pas, les gens marchaient sur des œufs, des balayeurs dégageaient leurs parcelles de chaussée. La ville avait été prise de court. En plein milieu de la nuit, un déluge de flocons s'était abattu sur les toits et les trottoirs, laissant les habitants hébétés au réveil. De la neige en mars. On n'avait plus vu ça depuis une éternité. Méline produisait de la buée sur la vitre. La Prasine lui fait remarquer. Sur sa gauche, émergeant de la brume, une tour qu'elle croyait reconnaître. « Oui, c'est la tour Eiffel, là, de ce côté. C'est le parc Ranelagh. Et la forêt, derrière, c'est le bois de Boulogne. Vous êtes déjà venue à Paris ?» Non, évidemment, la fillette n'avait jamais eu cette chance. Agathe aurait dû s'en douter. « Bonjour, madame. Il était 10 heures précises. Cali arrivait. » Qu'il pleuve, qu'il vente, ou que la capitale soit prise d'assaut par un violent retour de glace, la femme de ménage arrivait à l'heure. 8 ans de service déjà, et pas un seul retard à son actif. « Bonjour, Cali, vous tombez bien. J'ai ici une jeune fille qui aurait besoin d'une nouvelle garde-robe et de matériel scolaire. Si je libère votre après-midi, auriez-vous la bonté de lui trouver quelques vêtements et des cahiers ?» Cali était une femme souriante, sèche mais souriante, qui ne disait jamais non. Même quand elle n'en pensait pas moins. C'était dans sa culture. Le sourire est une politesse excessive. Quel genre de vêtements ? La vieille dame considéra Méline. Un peu de tout. Manteau, pantalon, pull, sous-vêtements. Elle a 11 ans. Après, vous voyez bien, des vêtements qui lui iraient. Et les cahiers ? Oh, pas trop grands, suggéra la Prasine. Elle a de petites mains. D'accord. Cali était une jolie femme. Guère plus grande qu'un enfant, mais d'une jeunesse trompeuse, avec de longs yeux noirs et de longs cheveux noirs, engoncés dans un anorak noir et des bottes roses minuscules. Mais aux yeux d'Agathe, c'était avant tout une perle rare, un cordon bleu et une employée modèle, ce qui la rendait tout bonnement indispensable. Elle regardait Méline et surveillait chaque objet du coin de l'œil, que la fillette ne s'en approche pas trop. Au besoin, elle s'interposait avec la main, mais sans jamais la toucher. Ce n'était pas seulement la Prasine, c'était toute la maison qui n'aimait pas les enfants, qui n'était pas pensée pour leur présence. D'ailleurs, la vieille ne se souvenait pas de la dernière fois qu'un enfant avait mis les pieds dans cet appartement. Elle se demandait même si c'était jamais arrivé. « Il va falloir un cube de savon et une serviette », pensa la Prasine à voix haute, « et un lit ». Après un rapide passage par la salle d'eau des invités, avec son carrelage belle époque d'un rose désuet, ses placards bien rangés et sa baignoire aux pieds cuivrés, elles grimpèrent, à l'étage, des chambres de bonne. La première porte sur la droite, en arrivant des escaliers, était fermée à clé. Les deux autres, face au palier, ouvraient dans 2 espaces sous les toits, avec Vélux, obscurci par la neige, commode, lit, chaise et table de chevet. Agathe choisit la chambre de gauche, la plus éloignée de l'escalier, et enclencha l'interrupteur. Dans la lumière jaune, là encore, un ensemble de meubles dans le style Art Nouveau, même si les bois étaient clairement moins nobles et les volutes moins voluptueuses, ça sentait la vieille moquette, l'antimite et le renfermé. L'air était sec et froid, les meubles vides. Personne n'habitait ici, personne n'y dormait jamais. Le lit double, fait au carré, avec des draps si vieux qu'on les eût crus dans un état de rigidité cadavérique, avait le moelleux d'une planche de bois. « Ne vous installez pas trop, mais mettez-vous à l'aise !» lança la vieille femme comme elle déposait serviettes et savon sur la commode avant de disparaître avec un horrible sourire forcé. Pendant l'heure qui suivit, Méline l'entendit parler au téléphone, au pied des escaliers. Et au bout de l'heure, un homme monta les marches. Un homme gros en costume, avec une calvitie en forme de cœur sur le front et un triple menton sous la tête. Il s'installa sur la chaise qu'il avait montée avec lui. Sans un regard pour la jeune fille qui se tenait immobile, sur le pas de la chambre, il déplia son journal et se mit à lire tranquillement. Dans la soirée, la vieille fit sa réapparition avec une boîte de gâteaux à la main et remercia le gros monsieur de l'autre. « Vous êtes resté debout toute la journée ?» interrogea-t-elle en déposant la boîte de gâteaux sur le lit. « Installez-vous ici, il faut manger un peu. » Méline reconnut la boîte de gâteaux, des Palais Bretons. C'était ce même emballage manufacturé en dizaines d'exemplaires qui traînait par terre à côté de l'échiquier en haut de la tour, dans la serre. Mais la fillette n'avait pas faim. D'ailleurs, elle n'avait pas sommeil non plus. Sa colère s'était réveillée, qui lui donnait des forces et la tenait droite sur ses jambes. Toute sa volonté était revenue, comme par magie. Un pied dans le couloir, la vieille femme en tailleur eut un « bonne nuit » discret. La porte se referma et comme la fillette s'en approchait pour la rouvrir, elle entendit une clé jouer deux fois dans la serrure. Clic, clac. Après une difficile nuit blanche à ruminer sur sa situation, le lendemain, c'est Cali qui lui ouvrit sur les coups de 10h15. Puis l'employé de maison passa sa journée du vendredi entre ses tâches ménagères et faire des allers-retours devant l'escalier. À plusieurs reprises, elle monta pour s'assurer que tout allait bien. Elle avait acheté 10 cahiers noirs à gros carreaux, 10 stylos noirs, une horrible trousse avec des dessins de petites filles 10 fois trop maquillées, un cartable rouge et toute une série de vêtements, soit trop grands, soit trop petits. Presque tous dans des coloris gris avec rayures horizontales sur le modèle de la marinière que la fillette portait actuellement. Elle essaya plusieurs tenues, mais c'était chaque fois une catastrophe. Tantôt elle ressemblait à une prisonnière, tantôt à une enfant trop grosse dans un pyjama de grand-père. Seul un pull gris foncé très épais lui allait à peu près. Il la grattait au col et au poignet, mais il tenait chaud, ce qui s'avéra utile quand il fallut sortir l'après-midi suivant. Cali partait plus tôt le samedi, et ne se voyant pas l'enfermer dès 15h, la vieille femme proposa à sa jeune locataire d'aller faire un tour dans Paris, ce qui donna presque le sourire à l'enfant. Le temps qu'elle comprenne qu'il n'irait pas plus loin que le parc de Ranelagh, de l'autre côté de la rue. Elles traversèrent la chaussée de la Muette, passèrent devant le restaurant de l'ancienne gare et se mirent à déambuler lentement au milieu des statues et des rangées d'arbres morts, sans un mot ni un regard, l'une pour l'autre. Par ici, les pigeons étaient gros comme des canards, les chiens aussi petits que des rats et des ânes miniatures étaient montés par des humains miniatures. Certains jeunes jouaient autour des derniers îlots de gadou, tentant de réaliser des boules de neige qui se désagrégeaient dans les airs dès qu'ils les lançaient. Sans un sourire, les deux femmes s'installèrent sur un banc glacial juste assez propre pour que la prasine accepte d'y asseoir son royal derrière. Mais il n'y eut pas une phrase, pas un mot de prononcé de toute l'heure qui suivit. Elles écoutèrent le bruit des voitures, les cris des enfants et le roucoulement stupide des pigeons qui rôdaient autour d'elles. Puis la lumière commença à décliner dans le ciel gris. Le soir, le dîner fut servi dans le salon par la vieille dame elle-même. Certes, c'était les restes du repas préparé à midi par la femme de ménage. Mais pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette maison, Méline eut droit de manger autre part que dans sa chambre. L'avalage de viande et de petits légumes se passa, bien entendu, de tout commentaire, mais une fois le repas fini, alors qu'elle observait la ville par une porte-fenêtre, la fillette demanda « Vous croyez que les gens dehors, qui bougent dans leur maison, ils ont des choses à se dire, eux ?» En tout cas, la prasine ne trouva rien à lui répondre et la soirée s'acheva sur cette note déprimante. Quoique,